Radio Okapi. Il est midi à Kinshasa, 13h à Butembo, Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Le président de la République Félix Tshisekedi arrive ce dimanche à Djouba, capitale du Soudan du Sud, où il aura un entretien à tête à tête avec son homologue Salva Kiir. Au menu des sujets d'intérêt commun et les relations bilatérales entre ces deux pays voisins, précise la présidence de la RDC. Ituri, lancement hier samedi à Bunia par la Fédération provinciale de la Croix-Rouge d'une campagne de mobilisation des fonds pour appuyer le travail de ces volontaires actifs. C'est à l'occasion de la célébration du 159e anniversaire du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Notre invitée est la présidente de la Fédération diocésaine des femmes chrétiennes catholiques de l'archidiocèse de Kisangani. Professeur Léontine Sangangashi parle des activités d'encadrement des membres de cette fédération pour leur autonomisation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président sud-soudanais Salva Kiir a reçu hier samedi au palais présidentiel de Djouba, capitale du Soudan du Sud, le mandataire spécial du président Félix Tshisekedi, le professeur Serge Tshibangu. Selon une dépêche de la cellule de communication de la présidence congolaise, cette rencontre de plus d'une heure témoigne de l'importance des relations entre les deux États. Le président Salva Kiir a été informé de l'arrivée à Djouba ce dimanche du couple présidentiel congolais pour une visite de travail. Toujours selon la cellule de communication de la présidence, au menu des échanges, il y aura des sujets d'intérêt commun et les relations bilatérales entre ces deux pays voisins. Et puis les collectifs pour le développement et l'unité du Congo et les nouveaux mouvements politiques qui viennent de voir le jour en RDC. Selon Arlette Odia, son initiatrice, ce mouvement allié au PPRD a pour objectif de mobiliser les Congolais pour une alternance politique au sommet de l'État en 2023. Elle a déclaré hier samedi ici à Kinshasa, en marge de la cérémonie de la sortie officielle de ce mouvement. Arlette Odia l'a dit à Paul Matendo.
Le tout premier objectif que nous poursuivons, c'est l'alternance politique aux prochaines élections. Vous savez combien le peuple avait placé sa confiance en nos dirigeants de ces jours. Mais la manière de gouverner ne rassure personne. Au-delà du fait que l'économie continue à poser problème, il y a récemment les manifestants pacifiques qui ont été brutalement agressés alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé, pas seulement notre base, pas seulement les dirigeants de nos structures, mais même moi également en tant que citoyenne, d'opérer ce choix et d'aller aux prochaines élections en tant qu'opposante.
La Fédération provinciale de la Croix-Rouge Ituri a lancé hier samedi une campagne de mobilisation des fonds pour appuyer le travail de ses volontaires actifs dans toutes les zones instables de cette province. C'était au cours d'une cérémonie officielle tenue à Bunia à l'occasion de la célébration du 159e anniversaire du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le président provincial de la Croix-Rouge en Ituri affirme que sa fédération bénéficie des appuis spontanés de leurs différents partenaires. Serge Lémy en appelle à la solidarité africaine pour appuyer le travail des volontaires de la Croix-Rouge engagés à apporter les premiers secours aux frères et sœurs en danger. Il est au micro de Clarisse Zindoula.
On dit toujours, si on fait quelque chose pour nous, sans nous, c'est contre nous. Donc, et tout ce que nous voulons, c'est arriver à sauver la vie de nos compatriotes, de nous-mêmes, parce que nous aussi on peut être victimes, et de tout le monde. Et pour que cette stratégie marche très bien, nous devons d'abord faire l'engagement de la communauté, l'engagement public. C'est comme ça que je profite de votre micro, madame, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir interpeller le public de l'Ituri, la communauté iturienne, pour que tout le monde sache que désormais, nous allons commencer à mettre en place un mécanisme solide, crédible, que toute personne de bonne volonté puisse, à travers ces mécanismes, contribuer pour que la Croix-Rouge soit autonome.
Et puis ce jour, hier samedi, à Mbandaka, du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministre a effectué une mission d'évaluation de la 14e épidémie d'Ebola qui a fait 3 décès dans la ville depuis le 21 avril dernier. Il a été accompagné des représentants pays de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et de l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Éclairage avec Paul-Richard Malengela.
Aussitôt arrivé ce samedi à Mbandaka, le ministre de la Santé et sa délégation ont eu un long briefing avec la coordination provinciale de la riposte d'Ebola. Jean-Jacques Mbongani a félicité les différentes équipes engagées dans celle-ci, mais aussi les partenaires d'appui pour la mutualisation de leurs efforts. Ce qui reflète, a-t-il dit, leur volonté commune à arriver à bout de cette épidémie. Et pour cela, il a aussi invité la population à s'approprier cette lutte. D'après le chargé du bureau de l'OMS RDC, cette situation sous contrôle est due notamment aux acquis des précédentes épidémies d'Ebola dans la région. Mais le docteur Djigwimde a exprimé la nécessité du renforcement de la surveillance au niveau des points d'entrée en raison de la porosité des frontières de l'Équateur ainsi que du suivi des contacts en vue de les vacciner tous. Ce qui va, a-t-il estimé, aider à coup sûr à couper la chaîne de transmission du virus. Signalons enfin que depuis la survenue de cette 14e épidémie d'Ebola en Mbandaka, le bilan est de 3 décès sur 3 cas confirmés, soit 100% de létalité. C'est pourquoi la représentante de l'UNICEF en RDC a, elle, insisté sur les activités de sensibilisation et de résilience. C'est ce que mène déjà son agence Adika Tiamarino. Mbandaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
Et puis remise hier samedi à Kinshasa d'un kit de commerce et d'une enveloppe pour la relance des activités commerciales aux familles des victimes du drame de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Selon la présidente de l'Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, ADEAC, ce programme, réalisé en collaboration avec la Caisse de solidarité populaire d'épargne, vise à soutenir la relance des activités génératrices de ces familles amputées depuis le 2 février dernier des pourvoyeurs des revenus. La députée nationale Solange Massoumou-Kognenyesi a profité de cette occasion pour présenter au public différents nouveaux services de cette ONG, notamment dans les domaines de gardiennage, de la sécurité, de l'assainissement et de l'hôtellerie. Un reportage rendu par Blaise Ndongala.
Cet élan de cœur de la présidente de l'ADEAC, en même temps députée nationale, Elie de la Lukunga, a été accueilli avec satisfaction. Kassongo François habite Matadi Kibala.
Merci, Mouyanake.
Merci, je suis aujourd'hui très satisfait de faire partie de l'association ADEAC qui nous aide et nous prête main forte. Nous qui avons perdu nos biens aux événements qui se sont produits au marché Matadi Kibala, mais aujourd'hui, Dieu a fait que nous puissions avoir des bassins, des sommes d'argent pour reprendre nos activités. C'est notre maman à nous tous, elle aide tout le monde sans discrimination. Qui dit la protège et nous sommes vraiment très contents. Les bénéficiaires ont également appris comment gérer les fonds et épargner.
Je m'appelle Maman Rema, j'ai tout perdu lors des événements de Matadi Kibala. Je suis très contente de cet acte. Maman Solange nous a montré comment vendre, épargner. Ce n'est pas pour manger, non, c'est pour notre commerce et faire des bénéfices.
Et pour la députée Solange Massoumbouko, ces familles dépourvues de tout méritent une attention particulière.
J'avais promis de relancer une des personnes dans la famille pour autonomiser, continuer à exercer ce petit commerce, de reprendre petit à petit les activités.
C'était aussi une occasion de présenter au public le département ADEAC professionnel qui s'occupe de la formation en métier.
Un programme du développement des 145 territoires, la délégation des notables légats du territoire de Chabunda en mission à Kinshasa plaide pour la prise en compte des priorités de ces territoires enclavés de la province du Sud Kivu. Dans une note de plaidoyer adressée au ministre du Plan, Christian Mwando, ces notables souhaitent que la réhabilitation et la construction des routes soient considérées comme la seule priorité pour sortir ces territoires, non seulement de son désenclavement, mais aussi de la pauvreté. On écoute à ce sujet, bienvenue à Beli Ndioloko, président de la communauté de Léga de Chabunda à Bukavu, au micro de Pierrot et Lamange.
Pour juste raison d'illustration, un sac de ciment qui coûte 11$ dans la ville de Bukavu se négocie à 100$ à Chabunda. Au lieu d'éparpiller les fonds à tel ou tel autre projet, il est impérieux que tous ces fonds soient canalisés seulement sur la réhabilitation des routes. Les axes prévus sont Maimingi à Chabunda Centre et jusqu'à Mungembe vers le Maniema à travers le territoire de Pangi, de Kiziba à Kalole et jusqu'à Nepanepa vers le territoire de Kabambare encore dans le Maniema. Ces axes-là ne font même pas 500 km et donc avec le montant prévu pour ce programme, c'est possible que ces territoires soient ouverts à partir de ces deux axes. Nous avons également sollicité qu'il y ait la mise en place ou la création de deux brigades routières. Les deux brigades routières serviront tout simplement à assurer la maintenance, même à la fin du programme de développement local de 145 territoires. Le territoire de Chabunda aura toujours le moyen pour assurer la maintenance de ses routes et même l'ouverture de routes de dessertes agricoles.
Notons que cette délégation a été reçue par toutes les autorités nationales ainsi que les services impliqués dans la gestion du programme de développement des 145 territoires. Par ailleurs, la province d'Ikwilu va bénéficier des investisseurs italiens d'un projet de production de l'énergie hydrocinématique pour l'électrification des territoires de Bagata, Bulungu, Massimanimba et la ville de Kikwit. Le projet va consister en la pose des turbines dans les cours d'eau pour la production du courant électrique sans intervention des chutes. Les travaux de prospection se sont clôturés à Kikwit hier samedi. Le ministre provincial de l'énergie, Alpha Luma, précise que les travaux proprement dits vont débuter dans 6 mois. Il a été joint par Irène Boma.
Le projet consiste à ce qu'on appelle la production de l'énergie hydrocinétique. L'ingénieur italien qui nous amène la technologie nous dit qu'elle consiste à la pose des turbines sous l'eau. Ces turbines produisent de l'énergie. Il a été démontré que l'énergie hydrocinétique est un peu plus efficace, puissante, durable que l'énergie solaire et éolienne. Cette technologie sera appliquée à Bagata, Bulungu, à Kikwit et également à Massimanima. Donc ce sont les dominations qui ont été retenues pour ces projets. Il était question pour l'ingénieur de faire le prélèvement de données morphologiques de nos cours d'eau, nos provinces, c'est la rivière Kwilu qui a été retenu pour les 3 agglomérations et la rivière Lukula pour la cité de Massimanimba.
Nord Kivu, sensibilisation d'une 100aine d'étudiants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Butembo sur le danger et la prévention de la fistule obstétricale. C'était hier samedi au cours d'une conférence organisée par le Forum Intersciences en collaboration avec la Fondation Fistule, programme FISPRO en sigle. Objectif, lutter contre cette maladie en outillant les étudiants des sciences médicales sur les notions des bases irrelatives. L'orateur du jour, le docteur Baraka Munyanderu, spécialiste en gynécologie obstétricale, donne quelques conseils à suivre pour la prévention de la fistule obstétricale. Il est au micro de Grévis Salomon.
Les soins prénatales de qualité, c'est-à-dire les CPN, c'est-à-dire les consultations prénatales, doivent être de qualité pour mettre en évidence les cas à risque et indiquer les modes d'accouchement appropriés afin de minimiser les complications. L'usage du partogramme, le partogramme qui est un instrument très nécessaire pour la surveillance de l'évolution du travail afin de déceler un problème lors du travail et de décider soit de l'accouchement par césarienne ou par voie basse, c'est-à-dire l'accouchement est aussi. L'usage ou la pose de la sonde vésicale lorsque il y a déjà traumatisme ou problème au niveau de la vessie lors du travail prolongé, de laisser la sonde à place pendant au moins 14 jours afin de soigner la dame et de diminuer les risques des fistules à ce niveau-là.
Soulignons que cette conférence a été organisée en prélude de la Journée mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale, célébrée le 23 mai de chaque année.
Actualité internationale.
11 militaires ont été tués en Égypte en déjouant une attaque terroriste. Selon un communiqué de l'armée, les soldats continuent de poursuivre et d'encercler les terroristes dans des combats qui se sont déplacés vers une région isolée du Sinaï, en proie à une insurrection djihadiste. Le bilan est l'un des plus élevés enregistrés par les forces égyptiennes depuis des années. Et puis, guerre en Ukraine, les derniers civils ont pu sortir d'Azovstal, mais le siège n'est pas terminé. Au 73e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce dimanche 8 mai, les femmes, enfants et personnes âgées ont tous étaient évacués de la Syrie Azovstal, la dernière poche de résistance des forces ukrainiennes, à Mariupol, cité portuaire dévastée par les combats avec les Russes, a annoncé Kiev hier samedi.
L'invité.
Notre invité est la présidente de la Fédération diocésaine des femmes chrétiennes catholiques de l'archidiocèse de Kisangani. Professeur Léontine Sangangashi parle des activités d'encadrement des membres de cette fédération pour leur autonomisation. Elle s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Dantin Sanga, bonjour.
Et bonjour, monsieur le journaliste.
Quels sont les objectifs que vous poursuivez au sein de votre fédération?
Bon, nous visons l'évangélisation des femmes chrétiennes catholiques, mais aussi l'autonomisation, donc l'autoprise en charge des femmes chrétiennes catholiques. Et c'est à ce sujet où nous avons eu à organiser des activités d'autoprise en charge des femmes chrétiennes catholiques de Batama.
Professeur Léontine Sanga, concrètement, quelles activités avez-vous réalisées sur place?
Qu'est-ce que nous avons fait, puisque nous parlons des activités d'autoprise en charge? Nous avons appris aux mamans de Batama à préparer le savon. Nous avons appris aux mamans de Batama à préparer les tuska. Tuska, c'est une variété de maïs. Hein. Et lorsque vous préparez ça avec de l'huile, ça se transforme et ça devient comme du chiffon. D'autres personnes parlent de pop-corn. Nous avons appris aux mamans à préparer le jus à base d'ananas. On y ajoute le gingembre, de la citronnelle, ketchup et avec d'autres ingrédients.
Pour quel objectif, pour quelle finalité que vous avez organisé ces activités?
Oui, je veux bien signaler que c'était des activités programmées pendant le mois dédié aux droits des femmes, le mois de mars, mais pour des raisons techniques, on a dû ajourner ça. Et donc, nous sommes partis vraiment pour célébrer le mois de la femme, mais aussi, c'était aussi pour faire la récollection des Pâques, puisque nous sommes des femmes chrétiennes catholiques. Et aussi, nous avons dit que prier, c'est bien, mais c'est mieux que la femme puisse s'épanouir, surtout économiquement. C'est comme ça que nous avons eu des activités pour le compte de l'autonomisation économique des femmes chrétiennes catholiques de Batama.
N'y a-t-il pas eu autre chose, hormis les activités de développement?
Il y a eu préparation du savon, préparation des tuska, préparation du jus d'ananas, mais aussi nous avons appris à la femme de Batama comment s'habiller. Par exemple, comment nouer le pain, surtout au niveau de la tête, le foulard, hein? Oui, puisqu'il y a plusieurs modèles et c'est beau. Et lorsque la femme est bien habillée en pagne, c'est notre tenue, non? Comme africaine, comme congolaise. Et donc, à côté de ces activités de développement, nous avons pensé aussi à aider la femme de Batama comment bien s'habiller en pagne.
Comment ont-elles apprécié cette formation?
Elles ont très bien apprécié ça. D'ailleurs, elles ont dit qu'il ne faut pas que ça soit la dernière fois. La première, mais il ne faut pas que ça soit la dernière fois. Et elles nous ont promis que à la seconde occasion, nous allons trouver que vraiment, non seulement elles maîtrise et de préparer, mais il y aura des conséquences même sur les conditions de vie dans leur famille, sur la façon de prendre en charge leur église, puisqu'on a aussi constaté que parmi les fidèles, le grand effectif, c'est du côté des femmes. Et si la femme est autonome sur le plan économique, je pense que l'église peut se retrouver par rapport à la prise en charge de l'église.
Et pourquoi ne pas organiser cette formation sur place à Kisangani? Vous avez préféré aller à l'intérieur?
Ici à Kisangani, il y a déjà plusieurs opportunités. La femme chrétienne catholique de Kisangani a déjà suivi et continue à suivre plusieurs formations. Mais ne vous en faites pas, nous pouvons encore continuer avec ces formations. Mais nous avons trouvé que la femme de l'intérieur est par moments oubliée. Et lorsque nous nous retrouvons avec les femmes, même autour de notre ministre chargé du genre, il y a eu des remarques dans ce sens-là. C'est comme ça que nous avons dit que cette fois-ci, nous allons vers la femme de l'intérieur, la femme de Batama, pour qu'elle aussi puisse bénéficier des différentes formations que nous organisons au niveau de la ville de Kisangani.
Quel message pouvez-vous lancer aux femmes de l'intérieur?
Nous voulons vraiment que chaque maman de Batama puisse commencer à préparer les savons. D'ailleurs, notre souhait, c'est qu'elle puisse commencer à préparer les savons en groupe, hein, en association. Lorsqu'elles sont en association, elles vont beaucoup s'entraider, elles vont beaucoup s'épanouir et dès qu'elles sont épanouies, c'est les retombées. C'est sur leur famille, c'est sur l'église, c'est sur elles-mêmes.
Professeur Léontine Sanga, merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
C'était notre invitée, la présidente de la Fédération diocésaine des femmes chrétiennes catholiques de l'archidiocèse de Kisangani, professeur Léontine Sangangashi, s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais vous pouvez continuer à les réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.